Monsieur Grégoire, vous affirmez à la main que vous avez la vérité, que la vérité n'est d'autre que la vérité? C'est Benoît Grégoire, c'est ça?
Benoît,
ouais. Comment?
Benoît. Okay, alors, monsieur Grégoire, de façon non pertinente, on va quand même y répondre, on l'a prétendu que le fait commun n'était pas, ne vous appuyait pas dans votre démarche. Est-ce que c'était vrai?
C'est exact. On a même prétendu que je trouvais nos prétentions ridicules et je ne sais pas lesquelles ont été employées. Ce qui venait sans doute d'une lettre qui a été adressée à moi, entre autres, et à M. Michel Tran, à l'université, ce qui contenait une résolution de leur conseil central qui a été adoptée au début de l'été et qui a depuis été renversée peut-être à 180 degrés. Telle qu'en fait foi une des lettres que je te présente en liasse. À ta mère. Lors de la première audience le 1er août sur le contexte de cette rencontre. C'est-à-dire que c'était la journée même, en effet, que M. Dizol l'a dit, de mon entrée en mandat. Donc, il faut comprendre qu'avant le 19 avril, personne n'avait pensé ou imaginé que le déménagement serait de 4 mois. Avant le document du 19 avril, absolument rien dans les documents, et je serais bien surpris de voir nous pointer le contraire, nous disait qu'il faudrait quitter nos chambres pour 4 mois. Et c'est pour ça que bon, comme M. Brunet avait dit, l'AIRCOM avait un sentiment, bon, de victoire serait peut-être un peu gros, mais du devoir accompli très certainement pour avoir réglé une partie importante à l'époque du conflit. Donc lorsqu'on a reçu la lettre du 19 avril, évidemment, on a réagi parce qu'on voyait que les délais devenaient très courts. L'AIRCOM changeait d'exécutif, tout le monde était en examen finaux, était dans le plus mauvais temps pour... Ça date et se défendre. Ce qui a donné la proposition d'accord que M. Duval a exhibée, qui était effectivement une tentative d'acheter la paix, je dirais même du point de vue de l'AIRCOM, d'acheter la paix à mauvais prix, parce que c'était un recul sur certaines de nos revendications. Mais je vais m'attarder plus spécifiquement au fait que M. Duval a dit que le document, à la fin, il avait perçu comme un chantage ou une menace. Si je référais spécifiquement
au janvier 14.
Bon, à la phrase qui était « s'engage à ne pas nuire au bon déroulement des travaux de rénovation ». Si la façon qu'il a présenté peut effectivement sembler un chantage ou une menace, comme si on allait aller démolir du matériel ou je ne sais trop quelque chose. Il faut dire que, bon, tel que j'ai écrit dans l'historique dont vous avez une copie, Lors de cette rencontre, j'avais posé entre autres une question à M. Duval qui était de quelle façon est-ce que la RCOM peut infléchir votre orientation, sauf par des poursuites judiciaires ou des moyens de pression? Et celui-ci avait semblé dans l'incapacité de me répondre, ou du moins ne m'avait pas répondu ou avait refusé de me répondre. Donc nos deux alternatives à ce moment-là, si on voulait infléchir quoi que ce soit, surtout dans les délais extrêmement courts, semblaient être soit des moyens de pression, soit des poursuites judiciaires. Donc, lorsqu'on voit en contrepartie la RCOM, d'un accepte que l'allocation du réfrigérateur devient obligatoire pour les nouveaux résidents, bon, ce qui est l'opposition de qu'eux s'engagent à permettre aux anciens résidents de garder jusqu'à leur départ définitif, s'engagent à ne pas nuire au bon déroulement des travaux de rénovation. Je voulais dire, s'engagent à ne pas faire les 10 moyens de pression, et qui, même malgré que l'accord n'ait pas été signé, n'ont pas eu lieu, effectivement, durant l'été. Mais évidemment, comme on sait, on est rendu ici, mais il y avait un engagement. Ça n'était d'aucune façon les droits individuels des résidents parce que ce n'est pas en notre pouvoir comme association libre. Renonce à entreprendre des poursuites judiciaires concernant les délais des avis de déménagement. Donc, effectivement, ce qu'on voulait à ce moment-là, c'est acheter la paix. Elle avait dit qu'il a refusé pour cette seule raison, que c'était un chantage. La façon que la conversation a eu lieu n'est pas du tout celle-là. On l'a passé linéairement et ça a été refusé point par point, incluant la première page. Qui se disait à ne pas s'exiger que les résidents de la Tour Ouest quittent leur chambre avant le mardi 9 mai 2000, qui était déjà à des années-lumière de respecter un avis de déménagement majeur, à permettre aux résidents actuels possédant déjà un réfrigérateur de le conserver jusqu'à leur départ définitif des résidences, par les propres statistiques des résidences, ce n'était pas un nombre faramineux d'étudiants qui étaient concernés, à ce que le garde-robe et le réfrigérateur ne soient pas fixés au plancher dans les chambres rénovées, ce qui devenait non pertinent parce qu'à ce moment-là, M. Duval nous a assuré que ce ne serait pas le cas. Précédemment, des résidences dans la Tour Ouest, dans un espèce de projet pilote, s'étaient mis à visser au plancher, entre autres, les réfrigérateurs, ce qui avait posé des problèmes et généré un conflit. On voulait s'assurer que ce ne soit pas fait. On nous a assuré que ce ne serait pas fait. Ce n'est effectivement pas fait, donc ça devient sans objet. À ne pas tenter d'interdire l'affichage dans les chambres, c'était bien sûr d'aucune façon. À permettre l'affichage d'un corridor et salon en condition que celui-ci soit réalisé à l'aide de gommettes. Il faut dire qu'à cette époque-là, on nous a mentionné brièvement qu'il y avait eu des problèmes, que certains résidents s'étaient plaints d'affichage. On n'a pas voulu nous donner de cas spécifiques, et même de la façon qu'on nous en parlait, c'est vraiment comme s'il y avait eu un ou deux cas de gens qui s'étaient plaints. Et ce qu'on disait, c'est pourquoi à ce moment-là n'avez-vous pas agi dans ce cas particulier plutôt que d'interdire à 400 personnes et éventuellement 1200 de mettre des posters, de donner un visage étudiant à leur milieu de vie. Et évidemment, l'affichage à l'aide de gommettes était bon, une demande des résidences qui est tout à fait raisonnable parce qu'effectivement, surtout pour de la peinture neuve, il était fort probable que c'était affiché avec du gros tape comme c'était précédemment, ce qui était souvent le cas, ça allait endommager les murs. Donc c'était, je crois, totalement raisonnable. Finalement, à permettre aux résidents de peindre à leur frais leur salon, ce qui était la situation précédente. Et l'édition qu'il y a eu à ce moment-là, bon, il y avait effectivement le concept d'uniformité. Mais ce qu'on nous disait, c'est que pour que les résidences aient plusieurs couleurs, ils devraient maintenir des stocks différents de peinture afin de pouvoir repeindre ou faire des retouches dans les salons s'il y avait des dommages. Ce qu'on trouvait plutôt étrange et qui était pourquoi on avait mis d'alors à leur frais. Parce que précédemment, les résidences fournissaient le blanc aux étages qui désiraient peindre leur salon de façon tout à fait gratuite. Donc, on semblait avoir réglé cette objection. On était d'autant plus surpris de se rendre compte que chaque salon, finalement, a sa couleur qui se répète au bout d'un certain nombre d'étages. Je ne sais pas le nombre exact. Et bon, finalement, à installer du tapis dans les corridors ou, à défaut, y installer des tuiles anti-acoustiques et s'assurer que la surface des 10 corridors ne devienne pas glissante lorsque mouillée. C'était, après mon petite enquête personnelle, dans quelque chose scientifique, on avait eu la pétition du 14e Ouest, qui était l'étage pilote sur les problèmes reliés aux tuiles, qui était principalement le bruit. On nous a assuré l'installation du seuil tombant. On était convaincus que ce ne serait pas suffisant. Je serais bien surpris que les résidents puissent trouver un résident qui était là avant qui nous donne tort. Parce que, outre que les seuils tombants ne fonctionnent pas tout le temps parfaitement, mais le problème n'est pas tant d'étanchéité. C'est que maintenant, il n'y a A, pas de seuil tombant en dessous de la porte du salon, et B, vu que c'est des tuiles, les bruits sont générés à un endroit dans le salon qui précédemment dérangeait le voisin d'en face, ou les quelques voisins, se propagent beaucoup plus loin dans le corridor. Donc, le nombre de bruits pour une chambre particulière augmente, et en plus, les bruits du salon qui sont, on ne s'en cachera pas, le principal problème, parce que les règlements sur les étages, normalement, étaient, si vous faites du bruit dans votre chambre après 11 heures, allez dans le salon. afin de permettre au maximum de gens de dormir, parce que tous les étages, les règles implicites, c'est de 11h à 10h le matin. Donc, d'aller dans le salon, là, se réfugier dans le salon pose des problèmes, plus les bouches d'aération. Donc, c'était l'esprit de cet accord qui n'était pas, à cette époque, une menace, qui au contraire, l'ECOM était à genoux à cette époque. On était prêt à régler pour n'importe quoi pour que le monde puisse finir leurs examens, et on essayait de protéger les acquis qu'on jugeait à ce moment le plus important. Que ça a été vu comme une menace et présenté tel quel à la haute direction, ça explique très certainement les réponses laconiques et plutôt surprenantes dans lesquelles il disait que notre perception de la réalité s'éloigne de la réalité. Donc ça explique certainement le manque de réponse de la haute direction avec toutes les représentations qu'on a fait au cours de l'été. Donc si je voulais rectifier le but et la façon que cet accord a été présenté et négocié.
Merci.